Microscopie, une exploration des métiers de la santé à travers la voix de ceux qui les exercent. Microscopie.
Cette période du Covid a permis de nous sensibiliser à la problématique de la santé mentale, du bien-être, et des difficultés que l'on peut rencontrer quand on est seul. Et on voit bien aussi comment les réseaux sociaux sont une réponse, à mon avis, une réponse qui est inappropriée à la solitude.
Il y a vraiment une responsabilité que les entreprises devraient avoir envers la société, de créer des produits qui ne vont pas endommager la santé mentale. Et c'est une grande question de valeur, c'est toujours difficile parce que les entreprises favorisent le profit.
L'être humain a besoin d'humain, il a besoin d'humanisme, il a besoin de ça. Et plus on va créer des solutions artificielles, plus on va avoir besoin de solutions humanistes. Vous voyez, c'est ça le paradoxe.
Microscopie, un podcast présenté par la CARA dans le cadre du contrat local de santé Royan-Atlantique. Microscopie, épisode 5, deuxième partie, Zoom sur la santé mentale, grande cause nationale 2025. La santé mentale est devenue la grande cause nationale 2025, avec quatre objectifs prioritaires. La déstigmatisation, la prévention et le repérage précoce, l'amélioration de l'accès aux soins sur tout le territoire et l'accompagnement des personnes concernées. Microscopie.
Écoutez, la santé mentale, c'est finalement un peu toute ma vie, je suis très attaché. C'est toute ma vie et toute la vie de ma famille aussi, parce que ça fait 5 générations qu'on travaille dans ce domaine. Donc c'est vrai que c'est curieux, comme la santé mentale est quelque chose qui aura été vraiment au centre de mon existence professionnelle.
Entretien avec le docteur Dubois, psychiatre et directeur des Thermes de Saujon. Microscopie.
Santé mentale, c'est un petit peu l'idée que ça renvoie à la souffrance mentale. C'est-à-dire qu'en fait, la souffrance mentale, c'est pas forcément une maladie, voyez. Et ce qui est assez notable dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, c'est très difficile à définir, c'est que je ne pense pas qu'il y ait plus de malades qu'avant. Je ne pense pas que les gens soient plus malades, soient plus fous, soient plus déséquilibrés, soient plus voilà. Mais ça, je pense que les psychiatres, dans leur ensemble, sont d'accord avec cette notion. C'est plutôt ce qui est dit dans la profession et ce qui est considéré dans les statistiques. Ce qui a changé, par contre, c'est le niveau de plainte. C'est le niveau d'insatisfaction. C'est le sentiment que les gens ont d'être malheureux, d'être dans une atmosphère, dans une ambiance qui les angoisse, qui les tracasse. Et ça, c'est vraiment puissant. Et aujourd'hui, par exemple, on dit, enfin l'OMS dit mondialement, c'est pas que français ou départemental ou régional, c'est mondial. L'OMS dit 13% des gens dans le monde souffrent de santé mentale. Vous voyez, c'est cette idée vraiment qu'il y a une espèce de raz-de-marée, peut-être le mot est moins fort, mais enfin une espèce de grande vague, puissante vague d'insatisfaction, de désillusion, de souffrance, de plainte chez les gens qui ne correspond pas à de la maladie, psychiatrique. Voyez, on n'est pas dans de la maladie psychiatrique comme on le voit quand on est psychiatre, on voit des schizophrènes, des bipolaires, des dépressions. Là, on voit bien ce que c'est, ça. Mais là, non, on est sur des plaintes. Et ces plaintes, elles sont très difficiles à définir et à objectiver aussi. Est-ce que ce sont des plaintes un peu artificielles parce qu'on a une espèce de frustration, de déception, on s'attendait à quelque chose de mieux et puis on est un peu déçu ou inquiet par l'avenir? Ou est-ce que ce sont des plaintes réelles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une souffrance et que cette souffrance, il y a un peu les deux manifestement. Un peu les deux.
Microscopie. Quel est le profil des personnes qui se rendent au terme de Saujon?
Nous, on a des thermes, on a un centre thermal, on est très spécialisé dans l'anxiété, dans le burn-out, le sevrage des anxiolytiques, les troubles du sommeil. Donc on est très spécialisé dans ce domaine, donc on voit beaucoup de malades. On a 4500 malades, c'est vraiment ce registre-là. Donc c'est plutôt ces gens qui sont un peu à la frontière de la vie normale et de la souffrance psychiatrique. Vous voyez, alors il y en a qui d'ailleurs font des épisodes dépressifs et qui viennent en cure un peu après ou avant. Bon. Et cette population un peu à risque, vous voyez, qui est un peu sur le fil du rasoir, on la voit beaucoup en cure. Et on voit bien qu'il y a quand même dans la société, chez ces gens-là, des choses qui font souffrir. Une instabilité, une inquiétude par rapport à l'avenir professionnel, les soucis d'argent, l'instabilité affective, l'éloignement des enfants, parfois qui changent de pays ou qui s'éloignent, effectivement. Toutes ces choses-là font souffrir les gens. Et ce n'est pas forcément de la maladie psychiatrique que de souffrir parce qu'un enfant ne parle plus. C'est tout simplement peut-être du bon sens humain et relationnel.
Microscopie. Quel est le lien que vous entretenez avec l'hôpital public ?
Alors, il y a une collaboration naturelle, parce que forcément, on a des patients en commun, on a des patients qu'on ne peut pas suivre à un certain moment parce qu'ils sont dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui, enfin surtout pour eux-mêmes, parce que les gens dangereux pour autrui ne viennent pas tellement se faire soigner dans les établissements de santé. Ils sont adressés par la justice, en fait, hein, mais ce n'est pas des gens qui ont conscience de leurs troubles. Donc, par contre, on a des gens qui sont suicidaires, qui vont mal, qui ont vraiment une grande souffrance, et pour lesquels il y a des risques, ou des patients qui ont vraiment des conduites addictives graves et pour lesquelles, effectivement, là, on n'a pas les moyens d'assurer la prise en charge. Donc, oui, on est amené à les adresser sur la structure publique.
Qu'est-ce qui vous a amené à la prise en charge psychiatrique par le thermalisme ?
Ah oui, ça, c'est une remarque qui m'amuse un peu parce qu'en fait, mon parcours de... j'ai fait des études de médecine, comme vous l'imaginez. J'étais spécialiste interne des hôpitaux à Lille. Donc j'ai été spécialiste en psychiatrie, ma thèse, un mémoire pour des spécialités. Et j'ai fait une année à Sainte-Anne, à l'hôpital Sainte-Anne de Paris, où j'ai eu la chance de rencontrer vraiment beaucoup d'universitaires de renom. Donc ça m'a donné beaucoup d'accès à des réseaux de psychiatres. Et puis je suis venu à Saujon, où une place m'attendait, puisque mon père finissait sa carrière, donc je l'ai remplacé. Il avait 73 ans quand même, donc il était un peu pressé que j'arrive. Et je dois dire que, bon, c'était assez naturel, hein, j'aimais beaucoup ce métier, la psychiatrie, et j'avais beaucoup d'admiration pour mon père, enfin j'en ai toujours eu d'ailleurs, j'en ai encore aujourd'hui, pour mon père qui était un homme qui avait une vision de la psychiatrie que je trouvais très séduisante et très, très pragmatique, très, très adaptée à la prise en charge des gens, vous voyez, pas uniquement à l'écoute, c'est important l'écoute bien sûr, et à la compréhension des problèmes, c'est important aussi, mais aussi à la résolution des problèmes, comment je fais, comment j'arrive à aider les gens concrètement, comment je calme leur angoisse, comment je les accompagne, comment je les rassure sur ce qui ne va pas chez eux, et aussi comment je les traite quand ils vont très mal, et à quel moment je prends telle ou telle décision thérapeutique. Donc tout ça sont des choses que j'ai vraiment appris aussi à son contact et qui m'ont donné envie de faire à Saujon parce que je trouvais que sa manière de faire était séduisante et qu'elle me plaisait peut-être plus que ce que j'ai pu voir à droite et à gauche dans pas mal de cas. Et puis, ça c'est pour la partie psychiatrique. Et alors le thermalisme, très clairement, moi quand je suis arrivé à Saujon, j'étais pas tellement attiré par cette spécialité, non pas parce que j'avais un mauvais avis, mais parce que j'avais pas d'avis. Parce que dans les études de médecine, c'est assez curieux, mais on n'en parle pas. Et comme on n'en parle pas, je n'avais pas d'avis. Et quand j'en parlais à mes confrères, ils étaient un peu dubitatifs. Ils montraient un certain retenue en disant « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et en fait, c'était très très peu connu. Et quand je suis arrivé à Saujon, j'étais convaincu par les malades. C'est des malades que j'ai vus pendant plusieurs années, qui m'ont fait part de leur satisfaction et aussi du fait qu'ils considéraient que c'était à moi de me mobiliser pour essayer de faire reconnaître cette thérapie. Et j'ai eu un dilemme parce que je me disais, mais non, je ne suis pas universitaire, donc je ne peux pas parler d'un sujet qui touche l'université, qui touche l'enseignement professionnel. Moi, je ne suis pas un enseignant professionnel. Et en fait, petit à petit, j'ai été assez convaincu qu'il fallait que je bouge le cocotier, en tout cas, voilà. Et donc, j'ai commencé à en parler à des universitaires, écrire un livre, un premier livre. Et puis après, j'ai fait des études avec des universitaires qui m'ont accompagné. J'en ai régulièrement des études en cours qui sont publiés et qui sont accompagnés par des universitaires, parce que je ne fais jamais ça seul. Et je continue aussi à écrire des livres pour parler du thermalisme, de la psychiatrie et du thermalisme, parce que je pense qu'effectivement, le thermalisme a une vraie place à prendre dans le système de santé mentale, justement. Hippocrate, il disait qu'il y a deux grandes indications pour l'hydrothérapie, les douleurs, ce qui renvoie aujourd'hui à la rhumatologie, les douleurs chroniques, les arthroses, et puis les bilieux, les sujets bilieux, qui à l'époque, enfin qui représentent aujourd'hui les anxieux en fait, hein, les gens qui se font de la bile, qui s'inquiètent beaucoup, qui sont tout le temps tracassés, et on le voit bien, enfin nous à ce jour on le voit bien, c'est effectivement une excellente indication, parce que ben, on l'a démontré dans pas mal d'études aujourd'hui, l'anxiété est très très diminuée après un séjour en cure thermale de 3 semaines. Nous, dans nos travaux scientifiques, on ne peut pas arriver à faire des études de ce type-là avec uniquement un critère. C'est-à-dire qu'on compare la cure avec un traitement référent, par exemple avec un médicament qui a vraiment une efficacité sur cette maladie, ou alors avec une autre prise en charge, bon, hospitalière ou autre. Donc on ne peut pas... c'est un peu comme si vous dites à l'hôpital, c'est le professeur du service, voyez, ou c'est la perfusion, ou le médicament Y. Vous voyez, on peut pas... C'est difficile d'évaluer dans un ensemble de soins ce qui est vraiment le plus spécifique. En réalité, on peut penser que tout est un peu spécifique. Voyez, quand vous faites un séjour en cure thermale de 3 semaines, il est probable que l'eau soit importante, il est probable que le médecin soit important, il est probable que l'institution dans sa globalité, l'accueil des gens, la manière dont... D'ailleurs, on prépare, nous, on a tout un accompagnement, comme une formation du personnel pour accompagner les gens par rapport à l'anxiété, par rapport à la gestion de la douleur ou la gestion des angoisses, bien sûr. Et donc, c'est tout cet ensemble-là, c'est aussi les 3 semaines, l'éloignement des facteurs de stress, le fait d'être dans une bulle, le fait d'être avec d'autres patients qui ont des pathologies comparables. Tous ces éléments rentrent un petit peu dans le résultat qu'on obtient, qui est un résultat évidemment très satisfaisant.
Pourriez-vous nous parler du fameux lâcher-prise ?
On arrive aujourd'hui à définir le lâcher-prise thérapeutique par des scores, répétés ou pas. C'est-à-dire tous les matins, quand vous êtes en relâchement, on considère à un moment donné que vous êtes en état de lâcher-prise thérapeutique. Eh bien, quand vous avez cet état de relâchement, eh bien, vous regardez comment évoluent les gens par rapport à cet état de relâchement. Et vous vous apercevez que quand il y a ce relâchement qui est obtenu durant la cure, eh bien, à 4 mois après la cure, vous avez 44% d'amélioration sur les symptômes anxieux et dépressifs d'une échelle qui s'appelle la HAD. Et quand vous n'avez pas ce relâchement, quand les gens n'en arrivent pas à se détendre, du moins d'une manière suffisamment répétée pour que ce soit considéré comme étant du lâcher-prise thérapeutique, eh bien vous n'avez une amélioration moyenne que de 11% à 4 mois.
Microscopie. Les Termes de Saujon organisent chaque année la Semaine de la Santé Mentale pour tous, avec des conférences ouvertes au grand public. En parallèle, se tiennent les journées psychiatriques Saujon-Royan, soutenues par les acteurs publics et privés du territoire royanais. Docteur Dubois.
Ben oui, je retiens le public pour les thématiques sur la santé mentale pour tous. C'est une formule qui a marché parce qu'on a eu plus de 500 personnes à 3 événements. Voilà, donc ça c'est quand même, il y a vraiment une attente, un intérêt de la population, vraiment une ouverture de la population pour cette thématique. Et c'est assez, là aussi c'est un peu troublant, parce que vous savez, l'image de la psychiatrie n'est pas très bonne, les fous, des gens qui se plaignent, bon. Et puis finalement, bah, quand vous faites un événement avec des grands noms, effectivement, et bah, les gens se déplacent en grand nombre, parce que ça les intéresse, c'est vraiment un sujet qui questionne. Ça c'est un premier point que je retiens. Le deuxième point que je retiens, c'est quand même les thématiques qui ont marqué, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, on avait une conférencière américaine de New York, le Columbia University, qui était très spécialisée là-dedans. Bon, on a eu ça à le comble. Mais ce que je retiens, c'est que c'est vraiment une thématique qui interroge. J'ai trouvé que les questions posées par les gens dans la salle étaient remarquablement pertinentes. Elles étaient d'un bon sens. Et en même temps, j'ai senti une salle qui était très unie dans sa manière de percevoir les choses. C'est-à-dire que quand quelqu'un disait son inquiétude par rapport aux réseaux sociaux, à la place que ça prend dans la vie, etc., et aux dangers que ça représente, eh bien, les gens applaudissaient et ça avait l'air très uni. Il n'y avait pas d'opposition, parce que souvent, quand on est sur des sujets comme ça, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit gris, le troisième qui dit noir. Et voilà, on n'est pas toujours d'accord dans une même salle de 500 personnes. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait il y avait un vrai consensus. La soirée sur la mémoire, le cerveau, la conscience était très intéressante aussi, sur un sujet qui interroge beaucoup les gens, notamment les gens d'un certain âge, comme c'est le cas pour le pays royanais, où on sait que la moyenne d'âge est un peu plus élevée que dans certaines villes. Donc, ça les a beaucoup intéressés. Je crois que les interventions ont donné beaucoup d'informations simples, mais clair sur ce que c'était qu'un trouble de mémoire, ce que c'était que voilà, comment on avait découvert aussi ces pathologies naissantes et comment on les prenait en charge.
C'est ainsi que nous avons rencontré une spécialiste internationale qui explore les conséquences psychologiques des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle.
Portable, c'est le plus accessible en termes de, quand on compare avec les laptops ou les iPads, en fait, c'est l'accès est le plus universel parce que les gens ont les portables pour diverses fonctions. Et c'est, oui, pour l'accès aux réseaux sociaux et aux écrans, c'est le portable qui mène. So, je pense que ça a joué dedans.
Le professeur Darja Dorjovic, psychiatre, anthropologue au Harlem Hospital, affilié à la faculté de médecine de l'Université de Columbia à New York. Quels sont les signes qui doivent alerter dans le cadre de l'utilisation des réseaux sociaux ?
Un manque de temps pour tout ce qui est activité en présentiel, des changements dans les notes à l'école, des variations dans l'humeur qui sont plus aiguës, ça c'est un signe aussi. Yeah. Les routines de sommeil, oui, interrompues. Oui. L'agressivité aussi, certainement le cyberharcèlement des autres, le temps passé sur les écrans ou sur le portable ou sur les réseaux commence à avoir un effet sur le temps passé avec les proches, les amis en présentiel. Les solutions, c'est à plusieurs niveaux. Il y a le niveau du public et de la société. Je pense que là, il faut vraiment ouvrir la conversation avec, au sein des familles et au sein des communautés, au sein des écoles, pour éduquer les gens, pour éduquer les enfants, pour en parler, mais vraiment de façon très régulière. Puis deuxièmement, à déstigmatiser cette question d'addiction. Et je pense qu'il faut vraiment que les parents reprennent l'autorité et que les contrôles parentaux deviennent une éthique importante. En fait, il y a vraiment une responsabilité que les entreprises devraient avoir envers la société, de créer des produits qui ne vont pas endommager la santé mentale. Et ça, c'est une grande question de valeur. C'est toujours difficile parce que les entreprises ils favorisent le profit. Et c'est mieux pour eux qu'on soit dépendant de ces applications et qu'on les utilise de plus en plus. Mais je pense qu'on a assez de débats actuels et de procès et des lois proposées, etc., en Europe et aux États-Unis. Et l'Europe a fait mieux que nous jusqu'ici. Mais pour changer cette éthique.
Microscopie. Nous avons aussi rencontré le professeur Millet, psychiatre, président du conseil scientifique de l'université Paris-Sorbonne.
La santé mentale comme grande cause nationale en 2025.
C'est une chance. C'est une chance que le Premier ministre ait fait ce choix-là et qu'il ait pu mettre en avant cette question de la santé mentale. Il faut véritablement que la cause de la santé mentale soit prise en compte de la même manière que le cancer, les maladies cardiovasculaires, voire même les maladies infectieuses. Il y a vraiment un enjeu qui est majeur pour nos sociétés à venir. Moi, je vois comme ça comment nos collègues cancérologues ont su positionner le cancer comme évidemment un objectif primordial. Qu'ils ont eu, les cardiologues ont su positionner le cœur comme un enjeu majeur. Il faut que nous arrivions à faire la même chose pour les maladies psychiatriques, avec cette difficulté qu'elles sont peut-être plus difficiles à caractériser. Et donc ça vaut vraiment le coup d'arriver à trouver finalement des stratégies qui nous permettraient tout naturellement de soutenir un mouvement comme celui-là.
Et vous voyez des solutions à s'amorcer ?
Alors, je vois des solutions, je vois des choses à proposer. Il faut que l'on puisse développer un certain nombre de choses pour la santé mentale. Et parmi les choses que je vois, moi, et qui sont très positives, c'est que j'ai eu pas mal de contacts sur la possibilité, pour favoriser les innovations thérapeutiques et les innovations technologiques en santé mentale. Cette période du Covid a permis de nous sensibiliser à la problématique de la santé mentale, du bien-être, et des difficultés que l'on peut rencontrer quand on est seul. Et on voit bien aussi comment les réseaux sociaux sont une réponse, à mon avis, une réponse qui est inappropriée à la solitude. Et pour les jeunes, aujourd'hui, cette question de la santé mentale, elle est au premier plan.
Microscopie. Quels sont les moyens de soigner aujourd'hui ?
On a des actions qui sont très différentes. C'est sûr qu'on voit bien la psychothérapie en général. Hein, alors c'est très différent, les thérapies cognitives et comportementales de la psychanalyse, hein, ça n'a rien à voir. Mais si vous voulez, l'idée quand même des approches psychothérapiques, psychologiques, ça va être d'accompagner une personne, de l'écouter, de prendre du temps avec elle, de rentrer dans une compréhension de sa problématique et d'essayer de trouver avec elle des solutions pour l'aider à aller mieux. C'est très bien et très utile et dans pas mal de cas, d'ailleurs, c'est efficace. On voit les limites. Les limites, c'est que il n'y a pas l'expérimentation de la détente. Il n'y a pas l'expérimentation du lâcher-prise. Voilà, ça reste une démarche assez intellectuelle. Et les gens qui souffrent, ils ne souffrent pas que intellectuellement. Certes, c'est important d'arriver à comprendre les nœuds qui sont peut-être à l'origine des problèmes. C'est important d'aider les gens à prendre du recul mentalement et à réfléchir. Donc, ça, c'est très intéressant. Mais en même temps, vous avez des gens qui ont une telle tension en eux, voyez, une telle douleur dans leur ventre, de telles insomnies ou de telles tensions dans leur dos, dans leurs épaules, que ça ne va pas vraiment les aider sur ce plan-là. Et ils ont besoin aussi d'avoir recours à d'autres formes de prise en charge, notamment donc la cure thermale en l'occurrence. Après, vous avez les médicaments. Les médicaments, ils peuvent permettre effectivement de relâcher la personne, de réduire un peu ses tensions intérieures. Mais on sait aussi les risques de dépendance, hein, et puis les limites, parce que ça ne marche pas chez tout le monde. Hein, ça marche en... C'est chimique, voilà, et ça ne résout pas les problèmes, ça ne résout pas la cause. Et on a besoin, effectivement. Je pense que cette complémentarité entre le médicament, les psychothérapies et la cure thermale, c'est vraiment très intéressant.
Quelles sont les indications pour faire une cure dans le cadre de la santé mentale à Saujon ?
La cure thermale, vraiment, les indications, elles sont très bien posées maintenant. On a vraiment des éléments de preuve assez forts sur ces différentes situations médicales. C'est essentiellement le trouble anxieux et les situations d'épuisement. Le burn-out, l'épuisement des aidants, vous savez, qui s'occupent d'une personne âgée ou d'un membre de la famille qui va mal, qui a des gros problèmes de santé. Ces problématiques d'épuisement qui peuvent toucher aussi la femme de 45 ans, séparée, qui travaille. C'est pas forcément des causes extrêmement graves, mais ça peut être simplement un épuisement parce que on en fait trop, parce qu'on est trop sollicité, même des gens qui ne travaillent pas parfois se disent épuisés parce que trop sollicités ou trop prises dans des enjeux ou trop affectivement sollicités parce que parfois c'est des peurs, des angoisses, des émotions qui créent cet état d'épuisement. En tout cas, épuisement, anxiété forte. Voilà. Et puis, il y a une autre indication, c'est le sevrage des médicaments anxiolytiques. Ça, c'est très intéressant. Des gens qui n'arrivent pas par eux-mêmes à les arrêter. Donc là, il y a vraiment une indication. En plus, on a des programmes qui sont mis en place. Et puis après, les troubles du sommeil, les douleurs chroniques, comme la fibromyalgie en particulier, la fatigue chronique, un peu l'épuisement, mais il y a des gens qui souffrent sans épuisement vraiment, ils souffrent d'une fatigue chronique un peu résiduelle souvent. On indique aussi les dépressions réactionnelles, c'est-à-dire les gens qui sont dans des débuts de dépression, dans des dépressions qui sont secondaires à une anxiété chronique, ça arrive assez fréquemment. Tant qu'il n'y a pas de dépression majeure, c'est-à-dire tant qu'il n'y a pas des idées noires, du découragement, du désespoir, un très grand ralentissement, parce qu'il y a des gens qui sont incapables de se lever, d'être actifs, qui doivent être pris en charge à l'hôpital, eh bien là aussi c'est une indication.
Microscopie. Pouvez-vous nous parler de l'école du stress au sein des termes ?
Merci d'en parler, c'est vrai que c'est important. On a, depuis 2012, on a mis en place l'école thermale du stress, donc ce sont des ateliers, des programmes. Alors il y a deux formes en fait, il y a des ateliers qui sont proposés pour les curistes, qui veulent faire, de la peinture, du yoga, de la relaxation, de la méditation, voilà, ils ont des séances comme ça, ils expérimentent. Et puis vous avez des programmes, c'est-à-dire vous avez un programme gestion des troubles du sommeil, gestion des angoisses, burn-out, fibromyalgie, dépression. Voilà. Vous avez une douzaine de programmes. L'année prochaine, on va sans doute mettre en place un programme nutrition avec le professeur Ferreri. Et donc, des programmes qui sont d'ailleurs encadrés par des universitaires. Et donc, pendant que les gens font leur cure, ils bénéficient, ils peuvent bénéficier de ces programmes d'accompagnement où il y a des entretiens psychologiques, où il y a des ateliers en groupe. Et puis, voilà, on travaille sur une thématique précise, des documents qui sont remis, on expérimente des séances de relaxation, etc. Vous avez des gens qui viennent 5 jours pour faire un programme de burn-out ou de gestion du stress ou de méditation. Donc il y a des gens qui viennent effectivement pour des programmes de 5 jours. Il y a même des programmes de 2 jours qui se développent actuellement. Pour les gens qui veulent vraiment, par exemple des gens qui veulent venir une fin de semaine, un jeudi, vendredi, ils prennent 2 jours et ils peuvent profiter du week-end et faire un peu de balnéo le samedi, dimanche.
À l'heure où les écrans nous isolent et remplacent la parole, prendre soin de notre santé mentale, c'est aussi se reconnecter aux autres.
On le sent très fortement, on est divisé entre les technologues et les psychologues. Vous voyez, il y a vraiment une évolution de la société très technologique qui envahit tout, et qui envahit nos vies. C'est ubuesque de penser que dans un monde aussi technologique, on n'est même pas capable de parler à quelqu'un. Enfin, voilà. Il y a des paradoxes dans notre société qui sont absolument incroyables. Et alors, on rêve tout haut que le monde pourrait être parfait, que l'intelligence artificielle va remplacer les psychologues, des choses absolument invraisemblables. Mais évidemment que l'être humain a besoin d'humain, quoi. Il a besoin d'humanisme, il a besoin de ça. Et plus on va créer des solutions artificielles, plus on va avoir besoin de solutions humanistes. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Et on va de plus en plus, effectivement, trouver des solutions techniques pour remplacer les gens qui travaillent très bien aujourd'hui, mais qui coûtent un petit peu cher. Mais demain, on va multiplier les besoins en humanité qui vont être absolument incroyables. Et à moi, mon hypothèse, c'est que si les gens sont de plus en plus mal, c'est pour ça. C'est parce qu'il y a de plus en plus de déshumanisation et que ça fait souffrir les gens parce qu'il n'y a pas de réponse, parce que c'est l'ordinateur qui est face à vous, et que du coup, vous avez de plus en plus besoin de parler, de rencontrer des gens, de plus en plus de gens seuls, de gens isolés.
Microscopie. Microscopie, un podcast qui fait entendre la voix des professionnels de la santé, des hommes et des femmes qui ont trouvé le juste équilibre en pays royanais en exerçant avec dévouement leur métier. Et pourquoi pas demain, le vôtre ? Microscopie.